d'avoir une petite communauté avec beaucoup d'enfants, c'est que donc il y a beaucoup de vie. Mais alors d'un coup, quand les enfants s'en vont, vous avez la moitié de l'assemblée presque qui s'est retirée à côté là. Hein. Il y a deux assemblées, une ici, une à côté. Hein. Mais c'est beau, c'est beau. Le Seigneur vous bénit avec tous ses enfants et on se réjouit que vous ayez donc vos familles et que ça, voilà, il y a beaucoup de vie avec ses enfants. Heureux donc d'être des vôtres. Ça fait quelques temps que je crois que je suis plus venu à Cavaillon. Je n'ai pas regardé, mais peut-être même, je pense, une année. Hein? C'est ça, une année, il me semble. Ouais. Voilà, donc c'est bien de revoir quelques-uns d'entre vous. Et on se réjouit de continuer à marcher ensemble avec notre Seigneur. Pour introduire le message, je voudrais que nous lisions donc dans le livre des Nombres. Dans le livre des Nombres, au chapitre 13, nous allons faire une lecture un peu longue. Je vous propose que, je ne sais pas si vous avez l'habitude de faire cet exercice, nous sommes une petite communauté et donc c'est plus facile à le faire même, je dirais. C'est que je vous propose que on puisse faire une lecture commune, alors pas donc chacun va lire, mais donc ensemble. Je vais commencer, puis après je laisserai la possibilité à une autre personne de pouvoir lire deux ou trois versets, puis à une autre personne. Mais chaque fois, je ne vais pas dire une autre personne. Hein, ça, c'est voilà. Hein, donc c'est assez spontané. Et tout d'abord, je vais vous lire quand même les versets 1 à 4 du livre des Nombres au chapitre 13. Chapitre 13, les versets 1 à 4. Puis on suivra avec le verset 16 jusqu'au verset 33, donc c'est-à-dire tout la suite du chapitre 13 et le début du chapitre 14, les versets 1 à 10. Mais je vous les rappellerai. Mais tout d'abord, je vous lis les quatre premiers versets du chapitre 13, Nombre 13. L'Éternel parla à Moïse et dit « Envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux Israélites. Vous enverrez un homme de chaque tribu de leur père, chacun d'eux sera un prince. » Moïse les envoya du désert de Paran. D'après l'ordre de l'Éternel, tous ces hommes étaient chefs des Israélites. Voici leurs noms. Donc on ne va pas commencer à les lire. Ils sont énumérés toutes les tribus et chaque fois un des chefs que nous retrouvons déjà avant. Voilà, donc c'était des personnes importantes. Alors, nous continuons avec les versets 16 à 33 et je vous laisse la possibilité de lire quelques versets. Et comme on a un petit nombre, vous pouvez reprendre après la lecture et une autre lecture un peu plus loin, sinon donc on aura vite peut-être fait le tour. Mais allez-y, les amis, qui commence ?
Tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse donna à Osée, fils de Nun, le nom de Josué. Moïse les envoya pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit, montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est grand ou faible, s'il est petit ou en grand nombre.
Vous examinerez quel genre de pays il habite. S'il est bon ou mauvais, quel genre de ville il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées. Vous examinerez aussi comment est le terrain, s'il est fertile ou pauvre, s'il y a des arbres ou non. Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays. C'était l'époque des premiers raisins.
Ils montèrent donc et explorèrent le pays depuis le désert de Sin jusqu'à Rehob, à l'entrée de Hamath. Ils montèrent dans le Negev et allèrent jusqu'à Hébron, où étaient Aïman, Shéchaï et Talmaï, les Anakites. Hébron avait été bâti 7 ans avant Tsoan d'Égypte. Ils arrivèrent jusqu'à l'Oued Eshkol, où ils coupèrent un sarment de vigne avec une grappe de raisin qu'ils durent porter à deux au moyen d'une perche. Ils prirent aussi des grenades et des figues. On appela cet endroit Oued Eshkol, ou l'Oued de la grappe, à cause de la grappe que les Israélites y coupèrent.
Ils furent de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron, et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadesh dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent les fruits du pays.
Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays et nous avons à la ville de Moïse et en passé des fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant et ils sont fortifiés très grands. Nous y avons même eu des enfants d'Anna.
Les Amalécites habitent à l'entrée du Midi. Les Étiens, les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain.
Faites pitié à le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons et nous prendrons possession du pays, car nous en serons un peu. Les hommes qui étaient montés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter pour combattre ce peuple, car il est plus fort que nous.
Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré, et ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Nous y avons vu les géants, les descendants d'Anak, qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles.
Toute l'assemblée éleva la voix et poussa du cri, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, que nous sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que nous sommes-nous morts dans ce désert?
Pourquoi l'Éternel nous fait-il entrer dans ce pays pour tomber par l'épée? Nos femmes et nos petits-enfants deviendront nous croire. Ne vont-ils pas mieux pour nous pour tomber en Égypte? Et se dire l'un à l'autre, voulons-nous un chef en retournant en Égypte?
Moïse et Aaron tombèrent face contre terre devant toute l'assemblée de la communauté de l'Israël, parmi les fils de Noé. Ceux qui avaient exploré le pays, les Juifs, fils de Noé, et Caleb, fils de Yéphunné, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté d'Israël, ce pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays merveilleux.
Si le Seigneur prend plaisir en nous, il nous fera entrer dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous rebellez pas contre le Seigneur et n'ayez pas peur du peuple ou du pays. Nous n'en ferons qu'une bouchée. Ils n'ont plus d'ombrage pour découvrir. Le Seigneur est avec nous. N'ayez pas peur d'eux.
Et le verset 10, oui.
Toute la communauté parlait de l'Élabide. Lorsque la gloire du Seigneur apparut à la tente de la rencontre devant tous les Israélites.
Voilà, merci. Que le Seigneur bénisse sa parole. C'est quand nous regardons nos différentes églises, c'est toujours intéressant de voir les particularités des unes et des autres. Et même aujourd'hui, nous considérons que en fait, donc chaque église a une sorte de ADN. Hein, donc comme l'être humain a un ADN, il y a des choses qui caractérisent les églises. Alors bien sûr, il est souhaitable que toute église qui porte bien le nom de église de Jésus-Christ, c'est-à-dire église donc avec à la tête le Christ, il est souhaitable qu'elle ait des caractéristiques qui se retrouvent, hein, parce que sinon ça serait triste que vraiment il n'y ait pas des caractéristiques qui soulignent que dans l'église de Jésus-Christ, vraiment Jésus-Christ est à la tête. Mais il y a des caractéristiques aussi qui soulignent si une église, par exemple, donc a à cœur la louange de Dieu, ou une église a à cœur et développe l'évangélisation, c'est tout cela qui finalement se retrouve dans une église au fil du temps, parce que cela a été enseigné, encouragé, poussé, ou alors cela se s'est installé, parce que malheureusement il peut avoir aussi un ADN où on a, on dira dans les caractéristiques d'une église, que cette église malheureusement est en train de mourir parce que elle n'a de moins en moins donc de dynamisme dans son sein, en son sein. Voilà, il y a des choses qui caractérisent. Et alors ça nous a amené à Carpentras à réfléchir à justement ce qui nous caractérise et ce que nous aimerions qui nous caractérise, ce que nous aimerions enseigner qui nous caractérise, une sorte de ADN. Et dans cette réflexion que nous avons lancée déjà il y a pratiquement plus d'un an, presque deux ans, nous avons pris du temps régulièrement avec les responsables pour réfléchir à ce que nous étions, ce que nous sommes et ce que nous voulons être. Et petit à petit s'est installée l'idée que nous voulons être une église parce que nous le voyons dans la parole de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas ici de trouver une aspiration qui sort de la parole de Dieu, mais dans la parole de Dieu nous voyons que l'église et les enfants de Dieu sont résolus. Il y a de la résolution dans l'église de Christ, il y a de la résolution dans le cœur des enfants de Dieu. Et c'est ce mot que nous avons mis en avant dans l'identité de notre église à Carpentras, en soulignant aussi que chaque lettre de ce mot correspond à un verbe ou à des verbes qui finalement sont des axes que nous vivons et que nous voulons encore plus encourager ou développer encore plus. Et ainsi, nous travaillons dans ce sens notre vie d'église et aussi nous amenons des prédications dans ce sens. Et cette prédication que je vous donne ce matin, je l'ai donnée à Carpentras, je ne vous en cache pas, mais elle est, me semble-t-il, intéressante parce qu'elle concerne toute église locale. Parce que finalement, être résolu, c'est quoi? Quand vous regardez le dictionnaire, le mot résolu est donc décrit ainsi. C'est être ferme dans ses projets, avoir de la hardiesse, être déterminé, sans hésitation. On voit là, finalement, si on est donc des hommes et des femmes de Dieu résolus, des hommes et des femmes qui, finalement, sont des hommes et des femmes de foi. Et ce qui correspond pour Carpentras correspond en fait pour Cavaillon, pour Avignon et puis pour toutes les églises que nous pourrions connaître, les églises de Christ. Nous sommes appelés à être des hommes, des frères et des sœurs fermes dans leurs projets, des projets que Dieu a pour chacun et pour son Église, à avoir de la hardiesse pour leur Seigneur Jésus. Et puis aussi donc à être déterminé à vouloir faire sa volonté et à développer une obéissance au Seigneur sans avoir d'hésitation, des hommes et des femmes de confiance, de foi. Et en réfléchissant un petit peu, j'ai dit quels sont les passages que nous avons dans l'Ancien Testament, puis aussi dans le Nouveau Testament, et ce matin nous serons dans l'Ancien Testament, qui nous montrent ces hommes de foi. Et puis aussi qui nous montrent ce que cela veut dire ne pas être résolu. Et finalement, le texte que nous venons de lire, qui est bien connu, ce texte des 12 espions, nous montre bien l'exemple d'hommes qui sont résolus, qui prennent position pour le Seigneur, et puis d'autres qui ne prennent pas position. Et je vous propose ce matin de voir dans l'exemple de ce passage, de ces hommes, de voir les conséquences heureuse et malheureuse qui donc découle d'être des hommes et des femmes fermes dans leur foi ou résolus d'être des hommes et des femmes qui finalement ne sont pas fermes, se laissent aller, ne font pas confiance en Dieu. Alors cette histoire elle commence bien. En effet, on arrive à la fin de la période de la préparation du peuple d'Israël. Afin qu'il entre dans Canaan en tant que peuple de Dieu, Dieu prend le temps. Il faut savoir qu'il s'est passé 14 mois entre la sortie d'Égypte et ce moment qui est écrit ici. 14 mois. Et pendant ces 14 mois, Dieu a pris le temps d'installer pendant au moins 8 mois, si mes souvenirs sont bons, donc son peuple au pied de Sinaï pour donner la loi. Puis aussi, il y a le dénombrement. Plus de 600 000 hommes sont mobilisables pour se battre. Il y a aussi le tabernacle qui est construit dans cette période-là. Et donc, c'est le lieu du rassemblement où on est devant le Seigneur. C'est le lieu où Dieu honore le peuple de sa présence dans ce tabernacle. Voilà. Une identité. C'est pas n'importe quel peuple qui va rentrer, c'est plus le peuple esclave qui n'avait pas d'identité. C'est une identité de peuple de Dieu que Dieu a préparé pendant ces 14 mois. Et on se dit, ça y est, la conquête est là. Et Dieu prend cette initiative de faire envoyer 12 hommes. Il demande à Moïse de choisir 12 hommes, un par tribu, pour constituer une équipe d'explorateurs. C'est assez surprenant de voir cette initiative de la part de Dieu. On peut se poser la question pourquoi, alors que finalement il conduisait déjà dans cette période-là, la nuée est bien là présente pour conduire le peuple. Il y a toutes les directives, donc il y a la trompette qui doit être donner le signal du départ. Il y a bien des choses, l'arche qui pourra prendre les devants. Bien des choses qui sont là pour conduire le peuple là où Dieu les veut et tout. Mais Dieu dit non. Ça suffit pas, il faut encore envoyer des espions. Et je pense que ici est souligné l'importance que Dieu se sert, enfin est souligné le fait important que Dieu se sert de ses enfants. Il fait pas de nous des marionnettes, il fait pas dit bon toi tu dois aller là, bon allez tu vas là, boum, toi tu vas aller là. Il se sert de nous, de ce que nous pouvons apporter et qu'il nous a bien sûr donné pour que nous puissions lui apporter, pour que nous puissions le servir. Alors il envoie ces 12 personnes, 12 hommes qui sont des nobles, car ils ont le titre de prince, et je peux penser qu'ils sont choisis non seulement pour leur titre de reconnaissance aux yeux de leur tribu, mais aussi pour leur qualité d'explorateur, car quand même ils devront faire un rapport important avec leur propre jugement de ce qu'ils auront vu du pays. Ils sont missionnés par Moïse et on ne voit alors chez eux aucune hésitation et même on peut penser qu'ils vont même se réjouir de partir voir ce pays pour le découvrir afin que bientôt il puisse être conquis. Il devait donc y avoir un zèle, je pense, déjà là, qui se voyait chez eux. Et notre texte nous informe qu'ils accomplirent bien cette exploration. On voit donc que ces hommes étaient là à ce moment-là, donc des hommes braves, fermes, hardis, déterminés. Ils ont sans hésitation accompli ce que Moïse et Dieu leur avaient confié. Et on peut même dire qu'à ce moment-là, ils sont des hommes résolus. Et quand on est résolu, je pense qu'on peut tirer cette courte leçon pour vivre, quand on est résolu pour vivre et réaliser ce que Dieu veut pour nous, alors on va de l'avant. On va de l'avant et on réussit ce que Dieu nous confie, ce qu'on entreprend pour et avec Dieu. Alors, c'est quand même un bon commencement, mais pourquoi, à leur retour, ça se gâte? Il y a un revirement. On note que les 12 espions, à leur retour de leur exploration de Canaan, décrivent à Moïse et au peuple le pays qu'ils ont vu. Ils font d'abord ce qu'on leur a demandé, ils soulignent qu'ils ont vu un pays qui est riche et abondant en produits du sol, mais ajoutent-ils, il y a un peuple héroïque, il y a un peuple puissant qui habite le pays, leurs villes sont fortifiées et très grandes, et donc si elles sont très grandes, elles sont bien peuplées. Et de plus, il y a un autre grand hic, il y a des enfants d'Anak, des géants. Et si on se rappelle un peu la hauteur de Goliath, donc des petits bonhommes de 3 mètres, quoi. Voilà. Cette description est certainement réaliste. Elle est réaliste. Et on note que Caleb et Josué ne manifestent aucune opposition dans ses premiers dires. Ni ils les corrigent. Oh là là, ils se trompent, ils sont pas tout à fait bien grands, c'est pas tout à fait... Non, ils disent rien, là. Et je crois qu'on peut dire qu'être ferme et résolu ne veut pas dire être aveugle des situations qu'on peut rencontrer. On rencontre des circonstances dans la vie qui sont faciles, pas faciles. Il est bon de voir dans quel temps nous vivons. On tient compte donc de ce dans quoi nous vivons, de ce que nous allons rencontrer. Nous tenons compte des difficultés que l'on peut vivre. Mais c'est toujours, je crois, quand on est ferme et résolu, ferme dans notre foi, c'est toujours avec un regard, le regard de la foi, les yeux de la foi. C'est toujours regarder la situation en mettant en avant notre foi en notre Dieu, fort et souverain. Et c'est ce que Caleb et Josué vont faire. Mais ce n'est pas ce que ces 10 autres princes espions ont fait. Car ce qu'ils rapportent de la description des habitants de Canaan effraie le peuple, et là, c'est le murmure. Il y a pas mal de murmures dans le livre des Nombres. Le peuple a peur. Caleb, alors, les encourage à ne pas avoir ce pessimisme et à croire qu'ils pourront vaincre les Cananéens, quoi qu'ils soient, même avec leurs 3 mètres de haut. Non, on peut y aller, Dieu est avec nous. Et si les 10 espions avaient alors dit à ce moment-là, oui, ben quand même, bon, c'est vrai, oui, oui, bon, Caleb a raison, oui. Certes, ils sont nombreux et puissants, mais on va les vaincre, on va les vaincre, on va les vaincre, parce que Dieu est avec nous. S'ils avaient dit cela, alors ces hommes auraient manifesté ce que Caleb et Josué n'avaient pas perdu, c'est-à-dire la confiance en Dieu et l'assurance que Dieu va leur donner ce pays, parce que Dieu leur aura promis. Et là, je crois qu'il est... Des fois, j'entends des personnes qui reprennent d'autres en disant « Ouais, mais vous n'avez pas la foi, mais où est votre foi ?» Moi, je pense que il faut qu'on accepte que dans notre cheminement commun, il y a des personnes qui ont un naturel facile à dire « Oui, mais alors on y va, on fonce, on y va, le Seigneur est avec nous. » Et puis d'autres qui sont très calculateurs, un peu pessimistes, moi je suis un peu comme ça, je dois l'avouer, donc et qui ont besoin d'être encouragés. De voir, de peut-être un peu exprimer, on peut quand même voir un peu les choses autrement, puis après, petit à petit, le Seigneur leur parle et dit, mais oui, vous avez finalement raison, on peut y aller, on peut y aller. Malheureusement, ces 10 princes ne vont pas faire cela. On voit bien dans les propos des 10 princes, à la suite de ceux de Caleb, comment ils ont regardé et comment ils regardent la situation, comment ils regardent la conquête. Ils la voient, on peut le dire, sans compter sur Dieu. Ils doutent que Dieu va agir et faire ce qui, à leurs yeux, est impossible, vaincre ce peuple cananéen plus fort qu'eux. Leur problème, ce n'est pas ce qu'ils ont vu et rapporté, mais c'est qu'ils n'ont pas mis en avant la foi en Dieu, ou pire, c'est qu'ils ne l'avaient pas ou plus. Leur analyse de la situation n'a pas tenu compte de Dieu et de sa volonté à leur égard. Et cela va avoir de graves et tragiques conséquences pour tout le peuple. Comme pour ces hommes, il faut savoir que nos manques de foi ne nous touchent pas seulement. Des fois, on dit « Ouais, mais ça ne me regarde que moi ». Donc, notre façon de vivre notre vie avec Dieu, de comprendre, d'expliquer les situations et de prendre des décisions peuvent influencer ce qui nous entoure. Nous devons en être conscients. Par moments, on peut être malheureusement comme ces 10 hommes. On n'écoute pas Dieu, il n'a pas son mot à dire et il n'est pas pris en considération dans notre quotidien. Et alors, quel témoignage donnons-nous aux autres? Notre foi en lui est bien petite ou pas du tout mise en avant, et ce que nous montrons alors de nos vies est loin d'encourager d'autres personnes à avoir foi en Dieu et à désirer vivre et compter sur lui. Imaginez si tous les 12 espions avaient dit « on y va ». Il n'y aurait certainement pas eu 38 années dans le désert. Et il ne faut pas minimiser « oh, moi je ne suis pas grand-chose dans mon coin, dans l'église, je ne fais pas grand-chose ». Attention, attention, tout enfant de Dieu est important. Et tout enfant de Dieu est regardé comme un enfant de Dieu. Et quand il ne se comporte pas comme un enfant de Dieu, il est aussi regardé. Et il est important de ne pas minimiser cette responsabilité que Dieu nous confie d'être des hommes et des femmes de Dieu qui vont encourager et de veiller à ne pas décourager. C'est quand nous sommes des hommes et des femmes de Dieu résolus, en ayant de l'assurance en et avec Dieu, en étant constants dans notre confiance en lui, en manifestant nos convictions chrétiennes et en les appliquant dans notre quotidien, alors nous devenons de véritables témoins de notre Seigneur et notre vie témoigne et encourage d'autres à le connaître et à vivre avec lui. En regardant l'histoire de ces espions, nous pouvons voir qu'être résolu dans sa foi Oui, n'est quand même pas toujours facile à vivre. Il faut le souligner, nous le voyons dans cette histoire aussi. Si le ou les peuples qui devront battre sont redoutables, Caleb et Josué savent que Dieu est avec eux, et avec alors Israël. Et ils ont l'assurance que l'Éternel, on le voit, sera avec son peuple et lui accordera la victoire. C'est pourquoi ils restent résolus dans leur désir de réaliser cette conquête que l'Éternel veut leur donner. Mais malheureusement, nous l'avons vu, nous le voyons, il n'en est pas ainsi avec ces 10 autres espions. Et de plus, le peuple donc les écoute et il se laisse influencer par leur analyse qui entrevoit une défaite qui va être assurée et humiliante. Voilà comment voit le peuple de la situation. Et on voit au verset 30, si vous avez le texte devant vos yeux, qu'après le rapport des espions décrivant que les habitants de Canaan sont forts et à craindre, que le peuple se met alors à murmurer contre Moïse. Le texte ne dit pas la teneur de ces murmures, mais à la réaction de Caleb pour les reprendre pour leurs murmures injustes et les encourager à prendre possession du pays, on peut dire que les murmures sont les mêmes que ceux qu'on retrouve plus loin au début du chapitre 14 que nous avons lu aussi, où le peuple reproche à Moïse de l'avoir fait sortir d'Égypte et de les mener vers la mort, s'ils combattent ces ennemis terrifiants. Et là, Caleb intervient. Et cette intervention ne va quand même pas stopper ces gémissements et cette colère, car ils vont être attisés, ces gémissements et cette colère, par les propos des espions qui vont souligner que le pays, il est dur, le pays, pour ses habitants, et le peuple de géants ne peut pas être vaincu. Alors il y a un véritable face-à-face dans ce texte, un face-à-face entre d'un côté 10 espions incrédules avec le peuple qui murmure, et de l'autre Moïse, Aaron, Caleb et Josué. Ce face-à-face, il faut certainement voir qu'il a dû bien durer. Le peuple murmure toute la nuit et il s'installe dans les esprits une conviction, mais pas la bonne. La conviction qu'il aurait mieux valu qu'il reste en Égypte, et de ce fait, Moïse n'est plus le bon chef dont ils ont besoin. Aussi, qu'est-ce qu'ils se disent ? Choisissons-nous un nouveau chef et retournons en Égypte. Et là, Moïse et Aaron sont alors consternés. Mais ils ne sont pas les seuls. Avec eux, Josué et Caleb, qui sont à leur côté, eux aussi manifestent leur désapprobation, manifestent leur tristesse. Mais ils ne baissent pas encore les bras. C'est cela aussi être résolu. Ils tentent encore de convaincre le peuple en leur assurant que le pays est très très bon. Et il le sera pour eux, car Dieu veut leur donner. Soulignant que c'est un pays béni, ils exhortent le peuple à arrêter cette rébellion contre Dieu. Car il s'agit bien d'une rébellion contre Dieu. Car s'ils avaient confiance en l'Éternel, ils ne mettraient pas en doute qu'ils pourront vaincre les Cananéens. Et quand on lit la suite, on voit que malheureusement, Josué et Caleb ne vont pas convaincre la communauté en colère, et même cette communauté veut les lapider avec Moïse et Aaron. Et le peuple sera stoppé par Dieu qui se manifeste dans sa gloire, stoppant aussi toute rébellion. Le texte nous donne assez d'indices pour comprendre que nous n'avons pas ici la description d'une discussion posée entre ceux qui veulent une chose et d'autres une autre. Ça a place dans une église. Ici, il y a de l'hostilité, certainement de la colère, des gestes, des propos durs qui ont été lancés à la figure de Caleb, de Josué, ainsi que de Moïse. Mais on voit que ces hommes vont rester fermes. Ils vont rester fermes, résolus, déterminés à rester fidèles à l'Éternel, quoi qu'il en coûte. Il n'y a pas d'hésitation chez eux à prendre le parti de leur Dieu. Pourtant, cela ne fut pas facile et on voit que si l'Éternel n'était pas intervenu pour manifester sa gloire, le peuple les aurait certainement lapidés. Oui, cela coûte parfois d'être déterminé pour Dieu, d'être résolu à rester avec Dieu et de son côté. C'est clair, la Bible ne le cache pas. Cela coûte parfois. Nous vivons dans un monde où Dieu n'a pas sa place et ceux qui sont du côté de Dieu doivent aussi s'attendre à ce que l'on ne les encourage pas à vivre leur foi, voire même plus qu'on leur soit hostile à cause de leur foi. Cela arrive, moins dans notre pays, mais on n'a qu'à ouvrir les yeux et les oreilles et vous regarder un peu les actualités internationales et voir combien cela coûte d'être chrétien, d'être enfant de Dieu. Mais on a tout à gagner. En ayant dit cela, il faut le redire après. On a tout à gagner à rester ferme, à rester résolu avec notre Seigneur. Car, et c'est là mon dernier point, voyons ce qu'il résulte quand on ne l'est pas et ce que nous vivons quand nous le sommes. Et je vous propose de voyager rapidement dans le texte que nous venons de lire pour souligner ce qui découle de ne pas être résolu pour Dieu. On va le faire assez rapidement, mais je pense que ça sera assez parlant. Les 10 espions et le peuple ne s'appuient pas sur l'Éternel et ils ne sont pas résolus. Qu'est-ce qu'ils vivent alors? Ils vivent d'abord la crainte. La crainte. La crainte. C'est terrible d'être craintif, d'avoir de la crainte et que cela nous bouffe à un point où on ne peut pas voir autre chose. On subit la crainte. Et on peut remarquer que dans ce monde dans lequel nous vivons, les gens sont craintifs. Ils sont de plus en plus dans la crainte qui se repose sur bien des incertitudes et des probabilités. On craint pour sa vie, on craint pour ses proches, pour son travail, pour son niveau de vie. On craint que ce que certains proches et prochains pourraient nous faire. On craint que ça aille de pire en pire dans certaines situations. Mais quand on regarde, oui, à notre Dieu, on ouvre notre cœur, on ouvre d'autres horizons, on a un regard différent. Parce que quand on ne regarde pas à Dieu, alors on ouvre notre cœur à des informations, à des pensées qui ne peuvent être cadrées par notre connaissance de Dieu et de sa parole. La crainte peut s'installer alors en nous. C'est ainsi quand on s'éloigne de Dieu, quand on ne donne pas à ses paroles la confiance que nous lui devons. C'est pourquoi quand on aime Dieu, oui, c'est différent, bien différent. Quand on écoute sa parole, c'est bien différent. Rappelons-nous ce que dit la parole, l'amour parfait que nous vivons avec Dieu, quand on est homme, femme de foi, confiant en notre Dieu. Cet amour parfait, donc celui qui est avec Dieu et en Dieu, bannit la crainte. Voyons notre point. Quand on n'est pas ferme dans notre foi en Dieu, on est influençable par qui ? Par les incrédules. Par ceux qui doutent de la parole de Dieu, de ses promesses, de son assistance, de la réussite promise, quelles que soient les circonstances. Écartez-vous du Seigneur et vous allez voir comment vous allez commencer à avaler certaines choses que vous n'avaliez pas avant. Quand on n'est pas, voyons notre point, on n'est pas attaché à Dieu et à sa parole, aussi on n'encourage pas les autres à prendre position avec et pour Dieu. On peut les encourager à se démobiliser plutôt dans leur marche avec le Seigneur. Autre point, quand on n'écoute pas ou plus Dieu, non seulement on se prive de recevoir ce que Dieu veut pour nous, la terre promise, la vie avec Dieu, mais aussi il y a des conséquences, comme pour Israël, qui par sa rébellion se privera de rentrer dans la terre promise. Ils rentreront certes, mais 38 ans après. Car Israël sera châtié par l'Éternel qui fait en sorte que tous les hommes et femmes adultes ne verront jamais la terre promise. Ils devront mourir dans le désert, ces hommes et ces femmes. 38 ans pour cela, errant dans le désert pour mourir. Et quand, oui, on ne fait pas confiance en Dieu, quand on prend un chemin contraire à Dieu, alors rappelons-nous que nous ne prenons pas le chemin de la vie. Nous ne prenons pas le chemin de la terre promise, nous prenons le chemin du désert, nous prenons le chemin de la mort, car on s'éloigne de lui, car on s'éloigne de la vie. Autre point, quand on n'est pas déterminé dans notre confiance en notre Seigneur, alors on est en proie aussi, ça va avec la crainte, au découragement. On peut avoir un regard sur soi et sur ce monde qui n'est pas juste, comme les 10 espions qui se considéraient, vous le noterez, comme des sauterelles et que les géants étaient, eux, invincibles. On peut trouver qu'on n'est pas grand-chose, même avec Dieu, et que ce qu'il y a dans ce monde est plus grand et fort que nous. On peut sous-estimer ce que qu'on peut faire avec Dieu en renvoyant tout à ses propres forces. C'est pourquoi il est nécessaire de regarder à notre Dieu et de rester confiant en lui. Sinon, tout est renvoyé vers nous. Enfin, quand on n'écoute plus Dieu et qu'on ne lui fait plus confiance pour ce qu'il veut pour nous, alors, qu'est-ce qui se passe ? Terrible ce qui se passe. On oublie. Vous remarquerez comment les Israélites ont oublié leur ancienne vie. Ils souhaitent retourner en Égypte, sous l'esclavage. Et cet esclavage, c'était un enfer. Ils naissaient esclaves pour mourir esclaves. Et entre le début et la fin, ce n'était pas de la rigolade. Ils étaient des esclaves. Pas de repos, dur labeur et mort certaine d'épuisement. Conditions de vie très sobres, celles d'esclaves. Et pourtant, ben, c'était pas si vieux que ça. Ça datait de, allez, 14 mois en arrière. Ils avaient oublié qu'ils naissaient esclaves et gardaient cette condition jusqu'à la mort. Vous savez, certes, nous ne sommes pas esclaves. Et quand le Seigneur nous a retirés de ce monde, il nous a retirés pas d'une condition d'esclave comme les Égyptiens ont vécu, mais nous savons qu'il nous a retirés de bien des conditions, conditions d'esclaves du péché, de ce monde, conditions qui étaient sans Dieu, avec toutes ses conséquences. Et quand on ne veut pas le plan de Dieu pour nous, alors on a souvent ce désir de revenir à cette ancienne vie, cette vie sans Dieu, et c'est terrible. Mais quand on est résolu, alors, je vais un peu plus vite, on reste ferme dans nos positions et dans notre désir de faire la volonté de Dieu. Car on regarde à Dieu, on compte sur lui, sur son soutien et son action en notre faveur. On regarde les situations qu'on rencontre en tenant compte de lui. Et on les regarde comme lui les voit. Et ça, c'est important. On voit l'enjeu de l'obéissance, ce qui en découle et ce qui découle aussi de la désobéissance. On regarde ce qu'il nous promet et on sait que tôt ou tard, il nous le donnera, on en est sûr. On compte sur Dieu et on veut le voir agir. Il se peut que certains géants se dressent. Oui, ils se dressent, nous en avons devant nous. Des géants qui sont bien là et ils sont dans notre vie. Et ils veulent nous paralyser et nous empêcher de découvrir encore plus ce que Dieu veut pour nous. Mais rappelons-nous, Dieu veut nous aider et terrasser nos géants. Nous pouvons les vaincre avec notre Seigneur Jésus, qui est vainqueur et nous donne la victoire. C'est pourquoi que quand on est ferme et résolu dans notre foi, on ne se décourage pas dans la voie de l'obéissance. On peut vivre ce que l'on peut recevoir de notre terre promise, de notre vie avec Dieu. Puis on encourage aussi d'autres à prendre cette voie en rappelant ce que Dieu nous donne ou promet si nous lui restons attachés. On est touché aussi par ceux qui désobéissent et se détournent de ce que Dieu veut pour eux, comme Caleb et Josué, qui prennent une attitude de deuil, de personnes affligées, accablées devant le peuple rebelle. Oui, quand on est résolu, rien ne peut nous détourner de notre désir de plaire à Dieu et de faire sa volonté. Comme du temps des apôtres qui, devant la menace des religieux, leur interdisant de répandre ce beau message de l'Évangile, ils se confient encore plus au Seigneur et en comptant sur lui pour avoir plus d'assurance pour faire ce qu'on leur interdisait, annoncer l'Évangile. Acte 4, verset 29. En conclusion, l'histoire que nous venons de voir nous montre bien donc l'importance d'être des hommes et des femmes de Dieu fermes dans leur foi, d'être résolus. Soulignant l'espérance que le chrétien a en Christ, l'apôtre Paul écrit ainsi, « Mes frères bien-aimés, soyez fermes !» Alors, je sais que maintenant les Bibles traduisent aussi, et elles ont tout à fait raison, « Ainsi, mes frères et sœurs bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Au bout, toujours, vous vivez la vie avec Dieu. » 1 Corinthiens 15, verset 58. Et écoutons, soyons attentivement ce que notre Seigneur nous dit. « Seulement ce que vous avez, dit le Seigneur, tenez-le ferme jusqu'à ce que je vienne. » Apocalypse 2, verset 20. Oui, mes frères et mes sœurs, soyons et restons fermes et résolus. Car ainsi, nous resterons avec notre Dieu et Père et nous vivrons la vie avec lui, celle qui nous promet en son Fils et en notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous vivons alors cette vie pour l'éternité, nous encourageons aussi d'autres à la vivre aussi. Que Dieu nous y aide. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons pour ta parole, pour ce texte qui nous rappelle l'importance de rester confiant en toi, de tenir compte de ta parole, de, oui, même nous risquer à te prendre au mot. Combien nous voyons que tu es ce Dieu grand qui tient toutes choses entre tes mains, ce monde, mais aussi nos vies. Et nous te bénissons parce que nous pouvons rester confiants. Et nous te prions que tu nous aides à être de plus en plus ces hommes et ces femmes de foi, mais aussi à être ces hommes et ces femmes qui encouragent d'autres à te connaître et à te suivre. Merci encore, Père. Amen.